Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Frédéric Lantieret et moi, l'histoire de Rodica Negroyou, l'empoisonneuse de Max Seville. Un document de Yonou Teyanou, réalisé par Bernard Farou. Bonne écoute.
Gérard n'a plus un sou pour vivre. Pendant trois mois, toute sa pension passe dans le manteau de Vison.
Pour l'aider, on ne lui a jamais envoyé d'argent, hein. Mais on voulait le nourrir.
Gérard part donc vivre chez sa belle-sœur à Livry-Gargan, en banlieue parisienne.
Gérard couchait chez moi, je lui avais donné une chambre, et puis il passait sa journée à me dire elle m'a pris pour un pigeon. Je lui dis écoute, décide-toi, t'as pas d'autre solution, il faut divorcer, tu peux pas continuer comme ça.
Mais Gérard hésite, discute, change d'avis. Il se confie à sa belle-sœur qui découvre que les choses sont allées encore plus loin.
Il nous annonce qu'il avait fait une donation au dernier vivant.
Par cet acte, Gérard a légué tous ses biens à Rodica en cas de décès. Il a signé ce papier trois jours seulement après leur mariage. Pour la famille, c'en est trop. Après trois mois en région parisienne, Gérard retourne à Nancy avec Madeleine et Francine. Ensemble, ils se rendent chez le notaire pour y déposer une demande de divorce et annuler sa donation au dernier vivant.
On a dit au notaire d'annuler ça, de le détruire. Alors, il l'a détruit devant nous.
Il l'a donc annulé et il a dit, à ce moment-là, il faut faire un testament holographe. Et il a fait ce testament.
Le texte est clair. Moi, Gérard et lui, je prive mon épouse Rodica Negroyou de tout droit dans ma succession. Après ça, Gérard rentre à Custine, mais Rodica est toujours dans le coin. Elle revient et cette fois, elle s'installe chez lui.
Elle va se maintenir maintenant dans les lieux, elle va faire un effort pour rester et dans le but d'atteindre les délais d'acquisition de la nationalité française.
Pour l'état civil, Rodica est toujours roumaine. Juste après son mariage, elle a fait une demande de naturalisation, mais elle a été rejetée.
Il faut 2 ans de mariage avec une communauté de vie. Et par 2 fois, cette demande lui est refusée, étant donné justement que l'enquête qui est faite par, je crois, les renseignements généraux, fait état de cette non-communauté de vie. Donc elle se fera faire des attestations par la commune, par la mairie. Elle fait faire même aussi un écrit de son mari qui signale qu'elle vit bien avec lui. Monsieur et lui est de nouveau sous l'emprise de sa femme qui en fait annule les dernières dispositions et remet tout en fait comme s'il était envoûté. Hein. Il remet tout au nom de son épouse.
Gérard annule la demande de divorce et rédige une nouvelle donation au dernier vivant, au bénéfice de sa femme bien sûr.
Mais il devait être menacé par elle pour faire des trucs comme ça. Parce qu'il n'y a pas de raison que quand nous, on était là, il se sentait fort. Puis quand il était tout seul avec elle, c'était une navette.
Il n'avait plus la parole, il n'était plus le maître de lui-même. Et il commençait à en avoir peur. Il couchait en haut, elle couchait en bas, parce que même dans la maison, ils n'étaient pas ensemble. Il pensait qu'il lui arriverait quelque chose physiquement. Alors, il avait pris un air de bœuf, il avait même pris une chaîne de vélo et il fermait sa porte à clé la nuit parce que c'était comme un enfant. Et elle a sauté sur l'occasion et elle l'a roulé jusqu'au bout. Et c'est cette type de mentalité que j'ai jamais avalée.
Les semaines et les mois s'écoulent dans une ambiance tendue. Rodica est naturalisée en janvier 88, mais la famille de Gérard n'a plus de nouvelles. Quand le 16 février, Francine reçoit un coup de fil sur son lieu de travail.
J'étais au lycée et le directeur m'appelle, il m'a dit « Madame Derriac, allez vite vous habiller, il faut que vous partiez tout de suite à Nancy, il y est arrivé un accident à votre frère ». Qu'est-ce qui peut lui avoir arrivé? Ben, il me dit, il est décédé. penser. Alors on s'est dépêché et je téléphone à ma sœur. Ma sœur, elle me dit, bah, dépêchez-vous parce que c'est le mal enterrement.
Ça a été l'étonnement, évidemment, incroyable. Et puis, on a filé à Custine. Hein. Elle était là avec son fils, très froide. Et on voit Gérard étalé les jambes pendantes, la figure bouffie, rouge, violacée même, les jambes aussi. Il avait une chemise sale. C'était le jour d'enterrement, hein. Et elle passe son temps à nous dire, vous voyez, il avait trop bu, c'est l'alcool qui l'a tué, voilà dans quel état il est.
Si ça avait été un buveur pour travailler au fourneau, il ne l'aurait pas gardé. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pas possible.
Moi, je me disais, on devrait faire une autopsie. Mais est-ce qu'on peut maintenant qu'on a décidé l'enterrement? Alors, je suis restée sur ce doute-là. On est sorti quand les pompes funèbres sont arrivées. Je n'ai jamais su si on l'avait mis comme ça, en vrac, dans le cercueil, si on l'avait habillé ou quoi. J'étais outré. Jamais j'ai entendu parler d'un décès dans ces conditions-là. Jamais.
Gérard est enterré le 17 février 88 au cimetière de Moivron.
Dominique, la chronologie des événements semble bizarrement très favorable à Rodica Negroyou.
En fait, Frédéric, c'est un peu comme si elle avait un calendrier dans la tête. Le 16 octobre 1990, Raymond Jacquetel lui vend sa maison en viager. Un viager, c'est la vente d'une maison, en général par une personne âgée, avec la possibilité pour elle de rester jusqu'à sa mort dans cette maison. Donc l'acheteur verse un bouquet, puis une rente mensuelle qui s'appelle une rente viagère. En l'occurrence, Rodica Negroyou va verser 2000 francs par mois à Raymond Jacquetel. Une vente qui est assortie d'une clause particulière, elle s'engage à s'occuper de lui jusqu'à sa mort, comme on s'occupe d'une personne âgée. Et bien figurez-vous que Raymond Jacquetel, il va mourir 2 mois après. 2 mois après la vente de sa maison en viager à Rodica Negroyou. Or 2 mois, Frédéric, c'est au-delà du délai légal qui est de 20 jours pour qu'un viager devienne effectif. Donc Rodica Negroyou est propriétaire de la maison.
Et alors, pour son mari, Gérard et lui, il y a aussi tout un concours de circonstances assez favorables. Hein.
Alors là, c'est le festival. En France, pour obtenir la nationalité française, il faut être marié et avoir une vie commune avec un Français ou une Française depuis 2 ans. Pour toucher la pension de réversion et la retraite de son mari, au cas où il décède, il faut être marié depuis 2 ans. Eh bien, Gérard et lui, il va avoir la bonne idée pour Rodica Negroyou de mourir 2 ans et 2 mois après qu'il se soit marié. Donc, conclusion, elle a la nationalité française et elle va pouvoir toucher la pension de réversion de son mari décédé. Et, cerise sur le gâteau, figurez-vous qu'un mois avant la mort de son mari, eh bien, ils ont signé ensemble une donation au dernier des vivants. Donc, elle possède tout.
En fait, dans son malheur, elle a beaucoup de chance, cette femme.
Elle a beaucoup de chance dans son malheur, et c'est ce qui va intriguer les policiers quand, 4 ans plus tard, ils vont découvrir les circonstances de la mort de Gérard et lui, ces coïncidences étranges dans les dates, eh bien, ça va les conforter dans les doutes qu'ils ont sur la mort de Raymond Jacquetel, et ça va éveiller leurs soupçons sur la mort de Gérard et lui. Donc, le magistrat va demander une seconde exhumation, l'exhumation du corps de Gérard et lui cette fois-ci.
Inspecteur Serge Ploussard, police judiciaire de Nancy.
On ouvre le cercueil et donc on s'aperçoit que le corps de monsieur et lui est, bon certes, depuis 4 ans, est momifié mais en parfait état de conservation. Donc tous les prélèvements ont lieu sur sa personne. que ce soit en tissu, poils, cheveux, et également, on a la chance de pouvoir prélever un morceau de foie.
Professeur Henri Coudane, expert en médecine légale.
On a envoyé effectivement dans le cadre de l'étude toxicologique chez nos collègues à Strasbourg, comme on l'avait fait la première fois, tous les prélèvements et on retrouve quoi ? De la digoxine. Les doses pouvaient en partie expliquer la mort de monsieur et lui. Les doses toxicologiques retrouvées. Ce n'était pas des petites doses, ce n'était pas... Voilà, donc c'était quand même un peu, encore une fois, curieux. Là-dessus, on est renommé avec le professeur Gillian Krantz pour étudier l'entier dossier médical, donc de monsieur et lui. Et là, aux surprises, on ne retrouve pas deux prescriptions, un peu comme dans le premier dossier, qui auraient pu expliquer la prise de dérivés de la digitaline. Donc c'était clair, on n'avait pas d'explication médicale à donner à la présence de digoxine dans le corps de monsieur et lui. D'où venait cette digoxine ? Mystère.
Monsieur le juge, le médecin légiste en fait confirme vos soupçons concernant ces deux décès. Est-ce que ces analyses permettent d'en savoir un peu plus sur le mode opératoire, sur la façon dont elle les a empoisonnées?
Oui, parce qu'effectivement, les analyses démontrent la présence de digoxine, notamment dans les cheveux qui ont été prélevés. Et ce résultat, donc, laisse supposer une consommation chronique, donc sur une certaine période, puisque, avec la croissance des cheveux, donc, on trouve de la digoxine à plusieurs étapes de la croissance, et on peut, à partir de cela, affirmer qu'effectivement, il y a eu donc une consommation ou une administration donc, du produit sur une certaine période, plusieurs semaines ou plusieurs mois.
Cela fait maintenant un an et demi que l'instruction est ouverte, et vous n'avez toujours pas interrogé Rodica Negroyou. Pourquoi ?
On ne l'a pas interrogé parce qu'il fallait essayer d'obtenir le maximum des éléments, sachant qu'en matière d'empoisonnement, on obtient rarement des aveux.
Alors vous la surveillez, qu'est-ce que vous faites ?
Des écoutes téléphoniques sont mises en place, mais qui ne donnent rien et c'est compréhensible puisque ça se passe en petit comité.
En juin 1992, vous décidez à la convoquer. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a changé à ce moment-là ?
Ce qui a changé, c'est qu'on a suffisamment des éléments, effectivement, à ce moment-là, pour avoir besoin de ses explications et de celles de son fils.
Rodica Negroyou est placée en garde à vue le 9 juin 1992 au commissariat de Nancy. Là, les policiers lui expliquent qu'elle est accusée d'avoir empoisonné deux hommes, Raymond Jacquetel et Gérard Éluy.
Devant toutes les questions qui lui sont posées, Madame Éluy absolument rien à se reprocher. Elle dit que son mari est mort tout à fait naturellement, que c'était un alcoolique qui buvait beaucoup.
Rodica se défend, parle beaucoup, argumente. Elle raconte d'abord aux policiers le premier décès, celui de son mari Gérard.
Elle dit être rentrée chez elle vers 20h30. Monsieur et lui étaient devant la télévision avec, soi-disant, beaucoup de bouteilles vides et beaucoup de bouteilles pleines. Il était ivre, elle sentait qu'il n'était pas bien, quoi. Elle va se coucher sur le lit qui est situé au rez-de-chaussée, au même étage, en fait, puisque le salon et la chambre ne font aucune. Hein. Plus tard, elle sera dérangée par le bruit de la télévision et elle voudra dire à son mari de baisser le ton. Et encore plus tard, dans la nuit, elle se rend compte qu'il est venu s'allonger à côté d'elle, tout habillé. Et c'est au moment où elle a voulu le déshabiller et lui parler qu'elle s'est rendue compte qu'il avait le nez froid et qu'il était mort.
Petit matin, Rodica a appelé un médecin. Les policiers vérifient et découvrent que ce médecin avait hésité à l'époque avant de délivrer le certificat de décès.
Ce qui paraît bizarre à ce médecin, à ce praticien, c'est le comportement de Madame Éluy. Elle ne paraît pas du tout affectée, elle parle très librement. En fait, elle n'est pas du tout la veuve qui vient de constater que son mari vient de décéder, quoi.
Les heures passent, les policiers ouvrent le deuxième dossier, celui de Raymond Jacquetel. Et là encore, ils mettent sous les yeux de Rodica Negroyou tous les éléments qu'ils ont amassés. La digoxine, dans le corps du défunt, la maison achetée en viager, les 750 000 francs qui ont disparu.
Elle ne se comporte pas comme tout le monde lorsqu'elle est en garde à vue. Elle est très excessive en tout. Elle veut diriger, elle n'admet pas la contradiction. On peut la mettre devant le fait accompli, elle va le nier. C'est un principe chez elle.
À la fin de sa garde à vue, Rodica Negroyou est inculpée d'homicide volontaire et incarcérée à la maison d'arrêt Charles III. L'enquête continue. Les policiers vont perquisitionner sa maison à Maxéville, en banlieue de Nancy.
Journal télévisé du 19 juin 1992.
Depuis hier, Rodica Negroyou assiste à la perquisition de son domicile ordonnée par le juge Jean Hartmann, chargé de l'instruction.
Nous trouvons à l'intérieur de la maison une multitude, un amoncellement d'objets, de choses, de meubles, d'objets de collection, enfin des vases galets, des choses comme ça. C'est des vases galets, donc vraiment de la région de Nancy. Et elle dit que ça lui appartient, c'est à elle qu'elle l'a ramené de Roumanie. On y croit peu, hein. En fait, on s'aperçoit que ces objets-là proviennent de chez M. Jacquetel.
Maître Gérard Michel, avocat de Mme Negroyou, dénonce les fondements même de l'enquête.
On en est à prendre les sommiers, les chaises, les casseroles. Je crois qu'on est encore loin d'avoir trouvé la preuve de quoi que ce soit.
Maître Gérard Michel, avocat de Rodica Negroyou.
Si la question est de savoir est-ce que Mme Negroyou était intéressée, la réponse est oui. Est-ce qu'elle était prête à beaucoup de choses pour s'emparer, y compris d'objets qui n'ont aucune valeur, de ce qu'on trouvera chez elle qui viennent chez M. Jacquetel, mais il y a des tours Eiffel sur des cendriers en plastique, des choses qui n'ont aucun intérêt, qui ne valent rien. Mais pour posséder, est-ce qu'elle est prête à beaucoup de choses? Oui. À tuer, je ne le pense pas.
Les policiers ramènent Rodica Negroyou en prison. La défense se lance dans la bataille pour obtenir sa libération.
Mais un mois plus tard, un courrier arrive sur le bureau du juge d'instruction. C'est une lettre en provenance d'Israël. Il y est question d'un certain Herman Goldstein, un homme que Rodica Negroyou avait épousé en Roumanie.
Vous venez d'écouter le deuxième épisode de Faites entrer l'accusé consacré à Rodica Negroyou, l'empoisonneuse de Maxéville. Retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 3.